RFI, il est 13h10 à Paris.
Édition spéciale. Florent Guignard.
Édition spéciale sur RFI après le sommet spécial entre Donald Trump et Kim Jong-un.
With Chairman Kim Jong-un.
Avec le président de la Corée du Nord, nous avons passé ensemble plusieurs heures très intenses. Et je crois que la plupart d'entre vous avaient reçu le document que nous avons signé, ou allez le recevoir sous peu. Il s'agit d'un document très exhaustif et va se réaliser. Je me tiens devant vous en tant qu'émissaire du peuple américain pour délivrer un message d'espérance et de paix.
Aujourd'hui, nous avons eu une réunion historique. Nous avons décidé de laisser le passé derrière nous et nous allons signer un document historique. Le monde va voir un changement majeur. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Donald Trump qui a rendu cette rencontre possible.
Vous venez d'entendre Donald Trump et Kim Jong-un. Aucun superlatif ne manque dans la bouche des deux dirigeants américains et nord-coréens pour ce sommet inédit entre deux ennemis qui menaçaient l'été dernier, vous vous en souvenez, de se détruire. Il y a eu non pas une, mais plusieurs poignées de main entre ceux qui ont passé les derniers mois à s'insulter copieusement. Et puis au final, un texte qui a été signé entre Donald Trump et Kim Jong-un. Un texte en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Nous verrons ce que ça veut dire exactement. Nous analyserons et décrypterons le contenu de cet accord pendant une cinquantaine de minutes avec Christophe Paget, spécialiste Asie du service international de RFI. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Avec nos invités également, Marianne Perrondoise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des deux Corées et du Japon à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons aussi Vincent Michelot, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Nous serons aussi en direct avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, Vincent Souriau à Singapour, Frédéric Ojardias à Séoul, Heike Schmidt à Pékin et Frédéric Charles à Tokyo. Ils nous raconteront ce sommet et les réactions des principaux pays concernés. Et tout de suite, nous allons à Singapour avec Vincent Souriau. Vincent, on va détailler dans un instant le contenu du texte qui a été signé par les deux chefs d'État. Mais racontez-nous d'abord un petit peu comment se sont déroulées ces quelques heures pour l'histoire.
Eh bien, la première image, c'est celle des limousines. 8h du matin, heure de Singapour, les cortèges de voitures officielles partent pour l'île de Sentosa, où va se dérouler le sommet. C'est à 10 minutes du centre-ville. D'abord, Donald Trump et sa délégation, les Américains sont arrivés les premiers. Quelques instants plus tard, Kim Jong-un et sa garde rapprochée pour l'image du jour, cette poignée de main qui va peut-être, sans doute, faire son entrée dans les livres d'histoire. La première poignée de main entre un président américain et un dirigeant nord-coréen. C'était tendu dans les toutes premières secondes, pas d'animosité, mais on a senti qu'ils étaient crispés avec un vrai contraste physique aussi entre un Donald Trump très grand, il mesure 1m90, en costume, cravate rouge, et un Kim Jong-un plus ramassé dans sa tenue noire traditionnelle, plus à l'aise aussi devant les caméras et les photographes. Ça a duré 10 secondes, quelques mots, merci, c'est un grand moment, le sourire pour la photo, et puis ils se sont engouffrés dans un petit salon avec un bouquet de fleurs et un tapis persan, si vous voulez tout savoir. Un salon paisible, avec leur traducteur pour un face-à-face assez étonnant. Ça s'est passé à huis clos, mais c'est vrai que la porte de cette pièce qui se referme sur Donald Trump et Kim Jong-un, tout seul, avec simplement les traducteurs à leur côté, alors qu'ils s'insultaient, comme vous le disiez, il y a encore 6 mois, ça a fait son effet. Ça a duré 40 minutes. Ils sont sortis au balcon, saluer la presse, et puis c'est allé très vite. D'abord, ils se sont mis autour d'une table avec leurs principaux conseillers pour une réunion élargie. Ensuite, déjeuner rapide, une demi-heure. Et là, on a eu droit à une promenade de Donald Trump avec Kim Jong-un. Bien présent le dirigeant nord-coréen, mais pas du tout le style Trump qui fait des pouces à tout le monde. Il a laissé parler le président américain jusqu'à la cérémonie de signature, où pour le coup, il a pris la parole Kim Jong-un afin de promettre un pas en avant majeur pour le monde entier à l'issue de ce sommet, on vient de l'entendre.
Alors Vincent Souriau, vous ne nous avez pas donné le menu quand même de ce déjeuner.
Non, j'ai pas osé.
Eh bien moi je vais oser. Cocktail crevette avocat, porc croustillant sauce aigre douce et puis tarte tropézienne en dessert. Alors Vincent, racontez-nous comment vous avez pu suivre ce sommet, comment vous avez pu travailler en compagnie de centaines de journalistes qui ont fait le déplacement à Singapour.
Alors, c'est très particulier puisque justement, pour un premier élément, on est à Singapour, qu'on appelle gentiment une démocratie autoritaire, ce qui veut dire en clair qu'il n'y a pas d'opposition et que les manifestations sont interdites. Donc, le rapport des autorités singapouriennes à la presse est, disons, méfiant dès le départ. Ensuite, il y a le facteur Corée du Nord. Les Nord-Coréens n'ont pas du tout l'habitude des médias et on peut dire que Kim Jong-un, ça n'est pas du tout sa culture. Je vous donne un exemple. Avant d'arriver, il a fait monter une énorme balustrade devant son hôtel, le Saint-Régis, en plein centre de Singapour pour éviter les curieux. C'est comme si on mettait un drap devant le Ritz à Paris pour, parce qu'une personnalité est là. De manière générale, de toute façon, il
ne parle pas. Un peu comme Beyoncé.
Voilà, c'est pas tout à fait la même culture, mais pourquoi pas. Ils parlent pas, les Nord-Coréens, ils ne communiquent pas, n'envoient pas de calendrier, pas d'horaire, pas de numéro de téléphone, rien du tout, aucune info confidentielle. Tout ce que la presse a recueilli ici, c'est venu de la Maison-Blanche qui, elle, a communiqué, mais on le sentait un peu déstabilisé par ce partenaire nord-coréen qui est très très loin d'un gouvernement occidental. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas communiquer, la propagande, ils connaissent ça par cœur depuis très longtemps, mais ils savaient que la Maison-Blanche allait faire le boulot, si je puis dire, et je pense que ça leur connaît très bien parce qu'ils ont toujours peur d'être instrumentalisés, Florent.
Voilà, le choc des cultures. Merci Vincent Souriau en direct de Singapour pour les coulisses de ce sommet. On vous retrouvera un petit peu plus tard, Vincent. Je me tourne à présent vers Christophe Paget. Christophe, on va s'intéresser maintenant au fond. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte signé par Donald Trump et Kim Jong-un ?
Alors, la Corée du Nord y réaffirme son engagement ferme et indéfectible à une dénucléarisation complète de la péninsule. Donald Trump, lui, fournit des garanties de sécurité à la République populaire démocratique de Corée du Nord. Les deux pays s'engagent à restituer les restes des prisonniers de guerre et des portés disparus au combat et à établir de nouvelles relations conformément à leur volonté commune de paix et de prospérité. Enfin, Corée du Nord et États-Unis affirment qu'ils vont mettre rapidement en œuvre cette déclaration et qu'ils s'engagent à des négociations.
Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce texte en revanche, Christophe ?
Alors déjà, si on parle dénucléarisation, on n'a toujours pas la définition attendue. On sait juste qu'elle doit être complète, mais pas irréversible et vérifiable, comme le souhaitent les États-Unis. Alors est-ce que les deux pays parlent de la même chose ? On ne sait toujours pas. On peut aussi noter que le texte ne parle pas de traité de paix Corée du Nord, Corée du Sud, même si le mot paix est utilisé quand même 3 fois dans cette courte déclaration. Il ne parle pas d'une éventuelle levée des sanctions qui touchent la Corée du Nord, même si le mot prospérité est employé. Donc on peut dire qu'il y a un mot sur l'économie, ce qui intéresse évidemment le plus Kim Jong-un, mais ça reste très vague. Et puis si le texte parle de la restitution des restes des prisonniers de guerre, il ne parle pas des Japonais enlevés dans les années 70 et 80 par les Nord-Coréens, le sujet le plus important pour Tokyo, le plus grand allié des États-Unis dans la région. Donc quand on lit qu'États-Unis et Corée du Nord s'engagent à des négociations à venir, on veut bien les croire, il y a encore beaucoup à discuter et à négocier.
Alors Marianne Perrondoise, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Asie. Votre sentiment, votre première analyse sur ce texte, cet accord, est-ce que vous parleriez d'un succès ?
Oui, je parlerai quand même d'un succès, même si, comme on vient de le souligner, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Et même si on a quand même le sentiment que les éléments bloquants ont été pudiquement mis de côté, car il fallait de toute façon s'entendre déjà sur le principe d'une rencontre. Et cette rencontre, elle n'est pas anodine, elle est très porteuse de sens, puisque quelque part on va tourner la page de la guerre de Corée, et que l'idée quand même c'est de signer un traité de paix, même si ça n'apparaît pas très clairement dans la déclaration. Il y a quand même une mention à la déclaration de Panmunjom, ce qui veut dire qu'on va quand même engager des discussions pour parvenir à la signature d'un traité, parce que les garanties de sécurité américaines qui sont attendues vont être forcément détaillées, et que les dirigeants ne vont pas s'engager à signer un traité laissant de côté la dénucléarisation sans que l'aspect sécurité soit bien mis en avant. Et en fait, je pense que les États-Unis ont déjà une idée de ce qu'ils escomptent proposer à la Corée du Nord en matière de garantie de sécurité. Encore faut-il discuter d'un calendrier. Et ce calendrier aussi, on le sent, il va devoir aussi être clarifié vis-à-vis de la dénucléarisation. Alors, on s'est entendu sur, je dirais, une approche un peu consensuelle, avec une photo qui au moins distille un climat de détente, parce qu'au fond c'est la confiance qu'il va falloir créer, et on a bien compris que les dirigeants allaient se retrouver, se revoir régulièrement.
Voilà, ce n'est qu'un début, c'est la première étape en fait du processus,
voilà,
ce sommet.
C'est un processus graduel avec des étapes qui vont permettre de part et d'autre de lever certaines conditions. Là, les sanctions, c'est évidemment quelque chose qui est très important. On a bien compris que tout ce chemin parcouru par la Corée du Nord vise à avoir accès à des facilités financières, vise à mettre en œuvre le développement économique du pays, qui est quand même l'objectif et la priorité du jeune dirigeant, et que ça, c'est l'élément qui a conduit donc Kim Jong-un jusqu'à Singapour, et qu'il a, dans sa logique, dans la logique nord-coréenne, déjà fait des efforts de son côté. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu la libération de ces trois prisonniers américains. Rappelez-vous qu'il y a eu donc cette destruction du site d'essai, même si on s'est interrogé sur la validité, voilà, et sur, je dirais, l'intérêt qu'il y avait à vraiment détruire ce site d'essai. Mais dans l'esprit nord-coréen, ils ont fait beaucoup d'avancées, beaucoup d'efforts. Et là, il faudrait que concrètement, on ait un retour sur ce que les États-Unis sont prêts à concéder. On a bien compris qu'il y avait les exercices militaires d'ampleur avec ce gel qui pouvait être poursuivi. Ceci n'appellerait qu'un gel en contrepartie de la part des Nord-Coréens sur leur programme balistique et leur programme nucléaire. Donc on attend de voir comment va s'enclencher ce processus.
Alors juste avant d'aborder cette question essentielle de la dénucléarisation, de quoi parle-t-on exactement, je voudrais votre sentiment sur cette rencontre entre ces deux hommes, avec la dimension psychologique importante. Il y a eu toutes ces insultes ces mois derniers. Comment vous les avez trouvés?
Moi, je pense que là, on a la démonstration d'une sorte d'anti-diplomatie, c'est-à-dire qu'on réussit à aboutir à des résultats quand même assez étonnants. C'était quand même assez impensable cette rencontre, surtout si on se réfère à l'année 2017 qui laissait craindre le pire.
Et aux dernières semaines aussi, puisque Donald Trump avait annulé le sommet avant de revenir sur sa décision.
Exactement. Donc on a le sentiment d'une diplomatie à l'émotion. Et d'ailleurs, Donald Trump ne s'en est pas caché quand il a plus ou moins dit qu'il sentirait au feeling, ce sont pas exactement ses mots, mais c'était bien ce qu'il voulait dire, si en face de lui, il avait un partenaire à qui il pouvait accorder sa confiance. Donc on sent ce côté émotionnel, cette avalanche d'images et cette théâtralisation qui est aussi quelque part la construction d'une diplomatie nord-coréenne, puisque il y a une communication qui est quand même très maîtrisée aussi de ce côté-là. Avec là aussi la volonté de certaines images très très symboliques. N'oubliez pas que la première poignée de main qui nous a étonnés a été celle entre le président sud-coréen et donc Kim Jong-un. Donc on sent des deux côtés une façon de faire de la diplomatie en procédant par image, c'est-à-dire très très simplement, parce que les enjeux sont quand même relativement complexes, et donc c'est peut-être aussi ces enjeux et ces objectifs qui sont visés qui impliquent cette démarche particulière.
Et peut-être toute l'ambiguïté de ce sommet et de ce qu'on en attend. On va justement écouter un extrait de Donald Trump, de sa conférence de presse qu'il a donnée juste avant son départ de Singapour.
Il n'y a pas de limite à ce que la Corée du Nord peut réaliser si elle abandonne ses armes nucléaires, accepte les échanges commerciaux et respecte ses engagements avec le reste du monde qui veut vraiment s'impliquer avec elle. Le président Kim a devant lui une opportunité sans précédent. Entrer dans les mémoires comme celui qui a inauguré une nouvelle ère glorieuse de sécurité et de prospérité pour son peuple. Le président Kim et moi venons de signer une déclaration commune dans laquelle il réaffirme sa volonté inébranlable de mener à bien la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous avons aussi convenu de mener des négociations vigoureuses pour mettre en œuvre l'accord aussi vite que possible. Et il veut le faire. Ce n'est plus le passé. Ce n'est plus une autre administration qui n'a jamais réussi à l'initier et donc n'a jamais réussi à le faire. Le président Kim m'a dit que la Corée du Nord est déjà en train de détruire un site majeur de tests de moteurs de missiles. Ce n'est pas dans le document signé. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus après la signature du document. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes au début d'un processus difficile. Nos yeux sont grands ouverts. Mais la paix vaut toujours de faire des efforts.
But peace is always worth the effort.
Voilà, Donald Trump lors de sa conférence de presse à Singapour et le petit coup de griffe habituel pour ses prédécesseurs.
Barack Obama, entre autres.
Voilà.
Comme d'habitude.
On va détailler maintenant cette question de la dénucléarisation qui est l'enjeu principal de cette question. Christophe Pagé, de quoi parle-t-on exactement? Parce qu'on sent qu'il y a des interprétations différentes dans cette
conférence de presse, Donald Trump a donc expliqué, en plus de ce qu'il a dit dans le texte, que la guerre de Corée allait rapidement être terminée. Pour le coup, il n'a pas donné plus de précisions. Il a souligné que les sanctions contre la Corée du Nord allaient rester en place pour le moment et que pour le moment toujours, il n'envisageait pas une réduction de la présence militaire américaine en Corée du Sud. Ce que souhaite Pyongyang. Par contre, victoire de taille pour Kim Jong-un et Marine Perrandoise, vous y faisiez allusion. Donald Trump annonce qu'il va arrêter les manœuvres militaires américaines avec la Corée du Sud. Et puis enfin, Donald Trump a indiqué que des Américains et des experts internationaux, alors est-ce que ce seront ceux de la IEA, on ne sait pas, seront impliqués dans la vérification de cette dénucléarisation sur laquelle on attend toujours d'avoir évidemment des détails, mais les négociations, si on a bien compris, ne devraient pas tarder entre la Corée du Nord et les États-Unis.
Parce que c'est ce qu'il manque aussi dans ce texte, le terme dénucléarisation vérifiable et irréversible. C'est une absence notable, Marianne Perrandoise.
On sent peut-être là que Bolton a dû reculer.
Le conseiller à la sécurité de Donald Trump, un faucon, un dur.
Oui, qui s'est quand même tenu derrière son président pendant toute la durée de ces entretiens et qui avait quand même parlé du modèle libyen et qui avait peut-être été à deux doigts de faire capoter ce sommet parce que le modèle libyen c'est une forme de dénucléarisation, c'est-à-dire qu'on remet ses têtes nucléaires et l'ensemble de son arsenal à ses partenaires qui vont les déposer dans un pays tiers. Donc voilà, je caricature un peu le processus mais simplement évidemment la Corée du Nord s'en est tenue, je dirais, aux conséquences politiques, c'est-à-dire la facilité avec laquelle finalement le colonel Kadhafi a été démis et puis sa fin tragique. Donc le modèle libyen a jeté quand même un froid dans les discussions. On ne voit pas très bien quel modèle va être mis en œuvre, mais on a quand même quelques images et quelques retours de la part de l'Iran, puisque au fond l'Iran n'a pas été mentionné, mais l'Iran a eu quand même des commentaires avec Rouhani, qui a quand même bien conseillé à son partenaire nord-coréen de se méfier du deal qu'il pourrait avoir avec Donald Trump en lui disant
il faut pas faire confiance aux Américains.
Voilà, il faut pas faire confiance. Regardez, nous avons signé un accord qui est quand même un modèle en matière non pas de dénucléarisation mais en matière de réduction et de gel d'un processus qui empêche de passer donc au stade militaire avec une surveillance internationale. Est-ce que finalement ça peut être le modèle qui peut être retenu pour la Corée du Nord? En tout cas, l'Iran est en train d'expliquer que ce n'est peut-être pas le modèle le plus fiable.
Et quand on parle, Marianne Perrandoise, enfin quand Donald Trump parle de dénucléarisation rapide, le plus vite possible, est-ce que c'est réaliste?
Non, et je pense qu'il a rectifié en disant que c'était quand même un processus long et complexe et coûteux. Écouteux, puisque j'ai bien noté aussi qu'il avait appelé à la rescousse la Corée du Sud et le Japon. Je pense que le Japon va être assez agacé d'être plus ou moins convoqué uniquement pour servir de banquier.
On va retrouver notre correspondant à Tokyo dans quelques minutes.
Mais on va certainement en parler. Non, c'est un processus complexe parce que d'abord, il faut identifier quel est le stade de ce programme nucléaire, aller visiter les sites, faire un état des lieux avec un inventaire. Je pense qu'il faudra beaucoup d'experts de l'AIEA ou d'ailleurs. Peut-être pour des raisons de neutralité, La Corée du Nord préférera que ce soit des experts de l'AIEA, des professionnels du désarmement qui procèdent à cette évaluation. Et puis on parle des nucléarisations, mais qu'en est-il du programme de missiles balistiques? C'est quand même un élément absolument décisif dans la panoplie d'armes de destruction massive nucléaire.
Concerne beaucoup le Japon, par exemple.
Le Japon serait fort nari de voir qu'il est appelé à la rescousse pour payer, ou en tout cas pour financer une partie d'un processus coûteux et long, et il ne verrait pas pris en compte ses intérêts de sécurité. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en ordre dans ce processus de dénucléarisation très très complexe et si vous voulez politiquement très sensible, parce que il intéresse la Chine, il intéresse la Russie, il intéresse le Japon. Il n'y a pas uniquement que les États-Unis et Pyongyang dans cette affaire.
La Chine, justement, vous en parlez. On va se rendre tout de suite à Pékin retrouver notre correspondante Heike Schmidt. Heike, les Chinois ont réagi il n'y a pas très longtemps et ils réclament la levée des sanctions américaines contre la Corée du Nord.
Oui, en tout cas, Florent, un assouplissement des sanctions onusiennes. Pékin n'a en effet pas perdu beaucoup de temps pour avancer ses pions. Des sanctions sont un moyen de pression, mais pas une fin en soi, a fait savoir tout à l'heure le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang. Et il demande au Conseil de sécurité de l'ONU de faire des efforts pour contribuer à une solution politique. Eh bien, la Chine serait bien sûr aux premières loges pour en profiter. Au moins 80% du commerce extérieur nord-coréen passe aujourd'hui par elle. Pékin pourrait d'ailleurs même ouvrir un peu plus ses frontières rapidement sans attendre un vote de l'ONU, car il reste des domaines comme par exemple la construction d'infrastructures qui ne sont pas concernés par cet embargo de l'ONU. Le redémarrage de l'économie est d'ailleurs déjà palpable à Dandong. C'est une grande ville plombé ces derniers temps par l'embargo, mais qui se veut désormais optimiste. Les prix de l'immobilier y flambent et les hommes d'affaires sud-coréens, japonais, américains et bien sûr aussi chinois sont déjà aux aguets. Donald Trump a promis à la Corée du Nord de devenir très riche, mais Florent, le journal Global Times rappelle aujourd'hui que les partenaires les plus importants de Pyongyang restent la Chine et la Corée du Sud, et qu'elles ne pourront pas être remplacées par les États-Unis.
Et à Pékin, bien sûr, Heike Schmidt, on attend, on espère une dénucléarisation de la péninsule.
Oui, parce qu'une dénucléarisation de la péninsule arrange Pékin. Pourquoi? Parce qu'elle craint sinon une course à l'armement qui a déjà en quelque sorte commencé avec l'installation par Washington du bouclier anti-missile, le fameux THAAD. D'autre part, la Chine ne veut pas que le régime de Pyongyang s'écroule, car le risque est bien réel. Des millions de Nord-Coréens pourraient alors se réfugier en Chine. Pékin reste aujourd'hui donc le meilleur garant pour la survie de la dynastie des Kim, et le jeune dirigeant Kim Jong-un le sait bien sûr très bien. Autre point important, Florent, la Chine se croit en effet indispensable pour signer un véritable traité de paix, puisqu'elle est l'un des pays signataires de l'armistice de 1953. La Chine ne peut pas être exclue de traité de paix, écrit un chercheur dans le journal Global Times, et poursuit, sinon elle aurait le droit de l'invalider. Un dernier point, Florent. Aujourd'hui, la Chine ne veut plus se faire court-circuiter. Elle compte revenir sur le devant de la scène diplomatique et maintenir, bien sûr, son influence sur son petit voisin, son frère nord-coréen.
Heike Schmidt, en direct de Pékin. Notre oui. Second invité nous a rejoint. Il est au téléphone. Vincent Michelot, bonjour. Vincent Michelot, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement.
Eh bien, c'est parfait. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Je voudrais qu'on entende votre première réaction, votre premier commentaire après, appelons ça la performance de Donald Trump à Singapour. Vous l'avez trouvé comment, le président des États-Unis, à la hauteur de l'événement?
complètement à la hauteur de l'événement, mais surtout des attentes, et tout à fait fidèle à ce qu'on pouvait espérer d'un Donald Trump qui était surtout à Singapour préoccupé par l'effet d'optique que donnait ce sommet, par les répercussions sur les chaînes d'information continue de cette rencontre, parce que effectivement il s'agit d'un moment historique et il ne faut pas le nier. Et en même temps, en termes de contenu et de détails, de calendrier, on peut légitimement rester sur sa faim quant à ce premier sommet.
Alors, on va écouter un extrait de la conférence de presse de Donald Trump à Singapour. Et puis, on retrouvera juste après notre envoyé spécial à Singapour, Vincent Souriau.
What do they do?
Ce qui a rendu possible cette rencontre, ce sont les garanties de la Corée du Nord concernant la dénucléarisation. Nous avons obtenu la libération des 3 otages américains. Ils nous les ont rendus il y a 2 mois. Ils se sont engagés aussi à nous remettre les dépouilles des héros tombés pendant la guerre. À ce moment-là, nous n'avions aucun contact avec la Corée du Nord. Le président Kim Jong-un ou quiconque d'autre, c'était une société totalement fermée. Nous allons donc récupérer les dépouilles et avons obtenu l'arrêt de tous les essais nucléaires et tirs de missiles. C'est effectif depuis 7 mois maintenant. Si vous regardez bien, aucun missile n'a été lancé depuis. Ils ont détruit leur site de test. Ça va se passer à nouveau. Ce n'est pas écrit dans l'accord. On vous donnera plus de détails ultérieurement. Nous avons décidé de maintenir le régime des sanctions. J'avais prévu d'ajouter 300 nouvelles sanctions. Mais cela aurait été un manque de respect de le faire à la veille de cette rencontre. Donc, quand vous voyez tout ce qu'on a obtenu, comme la libération de nos otages, moi je n'ai pas payé 1,8 milliard pour obtenir la libération des otages en Iran. Je trouve ça scandaleux. Donc, on a obtenu beaucoup de choses. Et quand j'entends certains médias dire « le président Trump a accepté de le rencontrer », je leur réponds « ce n'est pas cela qui est important. Nous devrions nous rencontrer et parler de nombreux autres sujets et je crois vraiment qu'on peut faire des choses formidables. »
Donald Trump, lors de sa conférence de presse à Singapour, vous y avez assisté, Vincent Souriau. Vous l'avez trouvé comment, le président des États-Unis? Il sent que c'est une bonne affaire pour lui, cette histoire?
J'ai surtout trouvé qu'il tirait la couverture à lui, parce qu'après un sommet diplomatique de cette sorte où 2 dirigeants internationaux se rencontrent pour signer la paix et un traité de dénucléarisation, malgré toutes ses faiblesses, un président américain qui reste à la tribune pendant 1 heure pour parler avec les journalistes, ça sent surtout le président américain qui parle à ses administrés. Je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler avec Vincent Michelot, mais c'est vrai que sur la forme, ça semblait un peu exagéré et qu'il aurait pu faire en sorte que la nouvelle se répande de par le monde sans qu'il ait besoin de la commenter pendant 1 heure.
Vincent Michelot, justement, est-ce que c'est aussi une opération de politique intérieure, ce sommet?
Il n'y a jamais de l'administration Trump qui n'ait des retombées, des visées ou un dessein électoral. Ça, c'est une absolue certitude. Dès lors que l'on manque de capacité à comprendre pourquoi une telle décision est prise, quelle est la logique entre deux décisions différentes, se reporter au contexte électoral intérieur est systématiquement très utile. Donc effectivement, comme le disait Vincent Souriau, c'est une opération d'autopromotion, mais qui livre le début du commencement d'un processus dont les détails sont terriblement complexes et qui pourrait se dérouler sur 2 ou 3 ans. La différence entre le temps diplomatique qui est extrêmement long et le temps médiatique et électoral qui est lui très court, avec des cycles qui se répètent très rapidement, cette différence, elle est énorme. Donc oui, il s'agit d'une opération de promotion, de communication, mais crise, elle pose les bases d'un débat. Mais ce qui frappe aussi dans cette conférence de presse que le président américain a tenue, c'est cette incapacité du président Trump à se maîtriser et à ne pas faire allusion, par exemple, aux négociations avec l'Iran, en critiquant les administrations précédentes, ce qui est toujours une marque de fabrique, en quelque sorte, de la présidence Trump.
Merci Vincent Michelot. Restez avec nous, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Vous évoquiez le calendrier électoral avec les élections de novembre, les élections de mi-mandat qui arrivent pour Donald Trump. Il n'y a pas d'élection en Corée du Nord, mais pour Kim Jong-un, c'est quand même aussi une opération de communication, Marianne Thérondoise.
Absolument, et il va devoir, je dirais, exploiter lui aussi, d'une façon différente de Donald Trump, les images, la poignée de main. Tout ça a été retransmis d'ailleurs en direct pour la population de Pyongyang et des villes et la population nord-coréenne. Et en fait, à ce moment-là, il va y avoir quand même une négociation, un virage un peu difficile, dans la mesure où c'est vrai, on tourne la page de la guerre de Corée, on affirme son leadership, sa puissance, on a traité d'égal à égal avec la première puissance mondiale, mais c'était aussi l'ennemi tout désigné qui a nourri d'une certaine façon l'idéologie du régime et la légitimité du régime, et en tout cas, qui est le fondement de la recherche de cette arme nucléaire. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que le régime nord-coréen, le système politique nord-coréen, peut se continuer à se construire, à se développer sans menace extérieure, sans ennemi, dans le cadre de cette nouvelle relation avec les États-Unis. Et en fait, la levée des sanctions devient de plus en plus importante dans cette logique, parce que concrètement, il va falloir que la population, les cercles privilégiés et surtout les militaires, dont on ne sait pas quelles sont vraiment leurs capacités d'influence sur le régime, mais dont on a vu quand même qu'il se posait des questions sur toutes les ouvertures du régime nord-coréen, puisqu'on a bien vu que Kim Jong-un avait purgé et relevé trois officiers généraux de leur responsabilité. Donc on sent qu'il y a quand même des résistances dans l'appareil interne nord-coréen, et la façon la plus évidente de faire taire ces résistances ou ces critiques, c'est le niveau de vie et la capacité via, je dirais, le retour de certains échanges, la cession à des prêts internationaux, donc des choses bien concrètes que la population nord-coréenne et les élites nord-coréennes vont pouvoir voir et dont ils pourraient bénéficier. Et là, ça reste quand même un enjeu.
Christophe Paget. Marine Perrandoise, vous disiez, voilà, maintenant, vivre sans ennemis, comment ça va se passer? D'un autre côté, la Corée du Nord, ça fait des années et des années qu'elle cherchait à avoir ce sommet bilatéral avec les États-Unis, puisqu'en fait, c'est une reconnaissance de facto de la Corée du Nord par les États-Unis, et ça, les présidents américains qui ont précédé Donald Trump l'avaient toujours refusé. Donc là, pour le coup, c'est peut-être le premier bénéfice, c'est cette reconnaissance pour Kim Jong-un.
Oui, c'est un prestige extraordinaire pour le régime, puisqu'au fond, dès Kim Il-sung, dès la fondation de la Corée du Nord, et donc dans la logique de l'après-guerre de Corée, il y a cette volonté de revoir et de corriger l'histoire, en fait, de prendre sa revanche. Et là, la revanche, elle est absolument éclatante. Elle intervient dans cette même lignée familiale. Donc, l'héritier a réussi quelque chose. Mais là, il va devoir continuer et réformer le pays. Et donc, en fait, il va falloir qu'il endosse, je dirais, les habits de réformateur. Un réformateur plus économique que politique. On a bien compris que le modèle chinois était peut-être quelque chose qui allait se mettre en place. Et on voit bien que la Chine est en train d'intervenir pour reprendre une certaine forme d'influence. Et cette influence, elle peut être absolument décisive, parce que elle parle de lever les sanctions. On voit déjà qu'à Dandong, un certain niveau d'échange a repris, et donc que la Chine ne va pas se laisser enfermer dans cette lecture trop rigide des sanctions, et qu'elle va devoir estimer que là, il faut aider le régime à opérer sa lente transformation. Et je pense que la Russie fait le même calcul. La Russie, qui a quand même elle aussi des intérêts à voir se développer sa zone frontalière, à reconnecter ferroviairement les relations avec la Corée du Nord, de façon à renforcer, je dirais, la Sibérie, cette zone extrême orientale qui est extrêmement pauvre. Donc on voit qu'il y a des enjeux économiques avec deux puissances. conséquences non négligeables qui peuvent influencer Donald Trump d'une certaine façon.
Merci Marion, Marianne Perrondoise. On va maintenant voir la réaction des, on va dire, des principaux concernés, les Sud-Coréens. Comment ils ont reçu ce sommet et les résultats de ce sommet. On va écouter d'abord ce qu'en pense un jeune homme de 22 ans. Il s'appelle Moon Gang-ho. C'est l'un de nos correspondants à Séoul, Louis Pagliano, qui l'a rencontré dans la rue.
La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est une belle opportunité pour enfin apaiser les tensions sur la péninsule coréenne. J'espère que l'on va pouvoir développer grâce à cela une collaboration entre les deux Corées.
Autre réaction, celle de Yoo Sung-hee. Elle a 30 ans, c'est une sud-coréenne de Séoul.
Donald Trump et Kim Jong-un.
Aujourd'hui, avec la rencontre entre Trump et Kim Jong-un, j'ai le sentiment d'être chanceuse de vivre ce moment historique. Mais en même temps, on a déjà été de nombreuses fois déçus dans le passé.
Alors, on va rester à Séoul, où on retrouve notre correspondant Frédéric Ojardias. Frédéric, le gouvernement sud-coréen vient de réagir officiellement.
Oui, le président sud-coréen Moon Jae-in a qualifié l'accord de Singapour de grande victoire pour ceux qui veulent la paix. Il a félicité le courage, la détermination des deux dirigeants, Donald Trump et Kim Jong-un, qui selon lui ont pris des décisions osées. Alors si l'accord que Trump et Kim ont signé est considéré comme vague et limité par les observateurs, Moon Jae-in assure lui très confiant qu'il permettra de mettre fin au dernier conflit de la guerre froide. Le président a ajouté que les deux Corées et les États-Unis allaient écrire une nouvelle histoire de paix et de coopération. Mais Moon Jae-in rappelle aussi que ce sommet n'est que le début d'un long voyage et que de nombreuses difficultés restent à surmonter.
Et puis il y a cette annonce surprise de Donald Trump à la fin des manœuvres militaires qui sont organisées deux fois par an entre les États-Unis et la Corée du Sud.
Oui, alors ça c'était vraiment la déclaration choc de la conférence de presse de Donald Trump. Le président américain a même qualifié jeu de guerre des exercices militaires massifs qui provoquent, rappelons-le, à chaque fois la fureur de Pyongyang parce que le régime les considère comme des préparatifs à une invasion. Leur suspension tant que les pourparlers continueront est donc une concession vraiment majeure faite par Trump pour rassurer Pyongyang. Cette suspension inquiète ici beaucoup les conservateurs sud-coréens qui assurent depuis des décennies que réduire ces exercices, c'est affaiblir la posture de défense face au Nord.
Et puis Donald Trump a même semblé évoquer, Frédéric Ojardias, un repli un jour des forces américaines présentes en Corée du Sud.
Oui, alors ça c'était l'autre déclaration fracassante de Donald Trump. Il a précisé que les 28 000 troupes américaines stationnées sur le territoire sud-coréen allaient rester pour le moment, mais qu'il espérait qu'elles partiraient un jour. C'est un coup de tonnerre parce que ce sujet est presque tabou ici. Les conservateurs sud-coréens estiment avoir besoin de cette présence militaire américaine pour se défendre et le départ des GI de Corée du Sud est exigé depuis des décennies par le régime de Pyongyang. Trump est devenu le porte-parole de Kim Jong-un, a même accusé Cho Kap-che et un célèbre polémiste d'extrême droite.
Alors Frédéric Ojardias, on va quand même revenir sur la genèse de ce sommet historique. C'est quand même une victoire pour le président sud-coréen.
Oui, on le répétera jamais assez, mais Moon Jae-in a joué un rôle crucial de médiateur pour rendre ce sommet possible. On s'en souvient, c'est un émissaire sud-coréen qui annonçait sur le parvis de la Maison-Blanche que Trump acceptait la rencontre avec Kim Jong-un. Fin mai, quand Trump annulait le sommet, Moon Jae-in et Kim Jong-un s'étaient rencontrés en urgence sur la frontière intercoréenne pour montrer leur détermination à poursuivre le dialogue. Moon Jae-in a donc réussi son coup, mais comme il le reconnaît lui-même, il ne s'agit que d'un début et les pourparlers, les négociations doivent continuer.
Merci Frédéric Ojardias en direct de Séoul. Alors Marianne Perrondoise, le rôle de la Corée du Sud a été effectivement très important dans cette avancée.
Extrêmement important et on a bien senti à un moment, au tout début, que le président Moon Jae-in avait du mal à convaincre le président Trump et donc que c'est quand même l'artisan lui aussi de ce rapprochement et qu'il va effectivement continuer à surveiller la poursuite du processus et on se demande dans quelle mesure, ayant fait le médiateur jusqu'à présent pour accompagner cette rencontre, il n'est pas décidé quand même à faire davantage pression sur le président américain, et notamment dans la levée des sanctions, pour que lui puisse reprendre des relations intercoréennes qui aient une quelconque substance, parce que ces relations intercoréennes sont quand même basées sur une forte coopération économique. Et à ce moment-là, si vous voulez, si on s'en tient à la réunion des familles préparées à des aspects humanitaires ou sportifs, on n'ira pas très loin. Donc il faut aller au-delà, effectivement continuer à travailler sur ce traité de paix ou ce pacte de non-agression, mais aussi faire en sorte de recréer une coopération économique avec la Corée du Nord. Donc apporter du concret et aider au développement de ce voisin.
On va maintenant prendre des nouvelles de Tokyo et la réaction japonaise après ce sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Frédéric Charles, vous êtes votre correspondant à Tokyo. Est-ce que les Japonais ont des craintes sur la suite ?
Absolument. La rhétorique de Donald Trump à Singapour suscite au Japon des interrogations sur son engagement à défendre son allié japonais. Le Premier ministre Shinzo Abe a toujours été inquiet du slogan de Donald Trump, « America first », »,« l'Amérique d'abord ». Et à Singapour, on a l'impression, ici à Tokyo, que Donald Trump sait jouer ce sommet solo, pour sa gloire personnelle, sans se soucier de la sécurité de son allié japonais, si vulnérable à des tirs de missiles nord-coréens. Alors le Japon redoute que Donald Trump réduise un jour la présence des forces américaines en Corée du Sud, car ce jour-là, le Japon se retrouverait seul en première ligne devant la péninsule coréenne. À chaque fois que Shinzo Abe rencontre Donald Trump, et il l'a fait une douzaine de fois au moins, il demande au président américain de confirmer l'engagement des États-Unis à protéger son allié japonais, y compris avec la force nucléaire. Le Japon s'était posé comme le plus ardent défenseur de la stratégie de pression maximale de Donald Trump contre la Corée du Nord. Il a été pris de court lorsque Donald Trump a accepté de rencontrer Kim Jong-un. Aujourd'hui, le Japon ne sait plus s'il peut encore faire confiance à son protecteur américain ou si le pays de la Constitution pacifique doit se doter de l'arme atomique.
Merci Frédéric Charles en direct de Tokyo. Alors justement, Christophe Pagé, ce retrait éventuel des troupes américaines dans la région, est-ce que c'est envisageable très sérieusement ?
En tout cas, ce sont des choses qui font peur au Japon, parce que le Japon estime qu'il est en première ligne et le Japon a peur d'un retrait américain dans la région. Il a peur en fait d'un traité de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui l'oublierait. Pour être plus précis, le Japon a peur que Donald Trump négocie en oubliant ses alliés proches, mais un petit peu lointains quand même. Donc Shinzo Abe avait vu plusieurs fois Donald Trump pour préparer le sommet, en lui disant tous les désirs du Japon pour ces négociations. Il y avait la question des disparus, c'est-à-dire les personnes qui ont été enlevées par la Corée du Nord au Japon dans les années 70 et 80. Ça, je l'ai déjà dit, c'est très important pour le Japon. Et puis voilà, il y a un éventuel retrait des troupes américaines qu'on a un peu de mal à imaginez pour le moment, mais voilà, il y a aussi, on parle des missiles intercontinentaux, mais il y a les missiles à moyenne portée qui peuvent toucher le Japon, bien sûr.
Vincent Michelot, sur ce retrait des troupes américaines, est-ce que c'est une perspective réaliste ? On sait que Donald Trump veut faire des économies et que oui. Il verrait pas d'un mauvais œil ce départ de ce dispositif extrêmement coûteux.
Le retrait des troupes fait partie de ce que j'appelle la convergence d'intérêts entre la Corée du Nord et les États-Unis. Évidemment, de la part de Donald Trump, c'est une source d'économie. De la part de la Corée du Nord, c'est une menace qui s'atténue ou qui disparaît. Ça fait partie intégrante d'un processus de négociation, mais c'est simplement un objectif à très long terme dans le processus de négociation. C'est-à-dire C'est-à-dire que on a déjà, comme vos divers correspondants l'ont rappelé, une déstabilisation très forte dans la région, qui inclut évidemment le Japon, comme c'était rappelé il y a une minute, mais aussi la Corée du Sud, qui n'est pas dans une position aussi tranquille qu'on veut bien le dire. Et il faut quand même souligner ce sommet à Singapour qui se fait dans un tête-à-tête entre les États-Unis et la Corée du Nord, alors que il s'agit de l'avenir de la péninsule coréenne, et que l'absence de la Corée du Sud, mais aussi de la Chine, parle d'elle-même comme étant justement ces éléments manquants mais cruciaux dans la construction d'un processus de paix.
Marianne Perrondoise, vous êtes d'accord avec l'analyse de Vincent Michelet?
Je voudrais ajouter en fait quelque chose, qui est que derrière la Corée du Nord, le Japon voit la Chine, hein, très clairement, et donc le dispositif américain au Japon, on dira ce que l'on veut, mais il correspond à des enjeux globaux, et il n'est pas uniquement dirigé contre la menace nord-coréenne, à la différence du dispositif déployé en Corée du Sud. Par ailleurs, il y a ce processus de transformation de la présence militaire américaine en Asie-Pacifique, avec Guam comme point d'ancrage, et la montée en puissance de la marine militaire chinoise. Et ça, c'est extrêmement décisif, qui fait que les États-Unis ne peuvent pas envisager de réduire totalement leur présence militaire, mais peut-être de la redéployer en mettant l'accent sur des armements de haute technologie et en mettant l'accent sur un ancrage maritime, parce qu'on le voit, le Japon a des difficultés avec la Chine sur les îlots Senkaku. La Chine se montre extrêmement agressif, et il y a la mer de Chine du Sud, où l'on voit un face-à-face de plus en plus agressif entre la marine américaine et la marine chinoise. Donc on est loin d'un désengagement, mais plutôt, je dirais, d'une transformation des équilibres et du dispositif américain en Asie-Pacifique. Il faut voir au-delà de la péninsule coréenne, je pense.
Alors, on va s'arrêter sur un aspect qui n'a vraiment pas été au cœur de ce sommet, c'est la question des droits de l'homme en Corée du Nord. Donald Trump, lors de sa conférence de presse, a assuré qu'il en avait parlé à Kim Jong-un. Il n'y a rien, en tout cas, dans le texte signé. Rapidement, Christophe Paget, on peut le dire, la Corée du Nord, c'est l'État le plus totalitaire au monde.
Oui, en tout cas, il y a une enquête de l'ONU qui a été menée entre 2013 et 2014 sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord. Voilà, ce qui est décrit, les chiffres qui sont donnés sont vraiment effroyables. Le chef des enquêteurs parle de crimes qui rappellent ceux des nazis. Depuis des dizaines d'années, dans les camps, on tue par le travail forcé, la famine organisée, la torture, les exécutions, les viols, on force les prisonniers à avorter. En 50 ans, plusieurs centaines de milliers de prisonniers seraient morts. Il en resterait encore entre 80 et 100 000. D'autres documents parlent de 120 000. Selon l'indice mondial de l'esclavage établi par la Woke Free Foundation, un Nord-Coréen sur 20 vit dans l'esclavage, et c'est le pays qui a servi et exploite le plus sa population. Il y a aussi, et c'est important, le nombre est impressionnant, les étrangers enlevés, des disparitions forcées exceptionnelles par leur ampleur, dit l'enquête. 200 000 personnes, beaucoup de Sud-Coréens évidemment, mais aussi des Japonais, des Libanais, des Thaïlandais et des Français, entre autres. Et puis évidemment, il y a aussi le travail forcé. Pyongyang envoie des dizaines de milliers de personnes travailler à l'étranger, principalement en Russie et en Chine, pour contourner les sanctions, et elles récupèrent jusqu'à 90% de leur salaire.
Vincent Michelot, vous êtes au téléphone avec nous. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. La question des droits de l'homme, on sent que c'est pas vraiment la priorité de Donald Trump.
Non, absolument pas, parce que il souhaite à la fois créer un rapport de force différent, inverser la tradition, et il souhaite systématiquement se démarquer des pratiques des présidents précédents. Et on sait bien que si effectivement les progrès ont été aussi lents avec la Corée du Nord, c'est parce que les prédécesseurs de Donald Trump ont toujours, d'une façon plus ou moins virulente, mis sur la table la question des droits de l'homme. À partir du moment où effectivement cette question disparaît et que donc il n'y a pas pas de menace aussi claire contre le régime, en particulier en interne. Le processus est plus facile, au moins à initier. Mais c'est aussi un pari extrêmement risqué, comme le sont souvent les décisions de Donald Trump, puisque on pourrait réécrire l'histoire d'une certaine manière et se demander quelle aurait été la position de Donald Trump dans la négociation avec le leader nord-coréen si il avait quitté le sommet du G7 au Canada avec l'appui et le soutien entier des autres pays du G7, avec notamment l'inclusion de la question des droits de l'homme dans la négociation. Il y a donc une rupture et une forme qui privilégie l'unilatéralisme au dépens du multilatéralisme, mais je crois qu'il faut absolument le rappeler, l'unilatéralisme ou le bilatéralisme Corée du Nord États-Unis peut marcher sur l'initiation d'un processus. Merci. Mais il sera rattrapé.
Merci Vincent Michelot, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci aussi à Marianne Perrondoise et à Victor Rouvrard et Didier Chérouza à la technique. Rendez-vous pour une nouvelle édition spéciale à 19h heure de Paris, que vous pourrez suivre aussi sur Facebook en direct.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Sur tous les continents, la nature et le bien-être humain sont en danger car nous avons surexploité les ressources de la planète. Changement climatique, crise de la biodiversité, pollution de l'air et de l'eau, l'addition est sévère, mais nous pouvons faire évoluer nos modes de vie pour les rendre plus durables. C'est pas du vent, vous explique comment. Rendez-vous les jeudis et vendredis à 14h10, temps universel.
RFI. RFI, la sélection du mois.
Dyslexis. Giron et Olamide.
RFI.
RFI Radio France Internationale, il est 12h en temps universel, 14h à Paris. Le journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Florent, bonjour à tous. Dans l'actualité, une déclaration commune signée au sommet historique entre les États-Unis et la Corée du Nord. Elle prévoit une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne tout en garantissant la sécurité du régime de Pyongyang. Le sommet a réuni Donald Trump et Kim Jong-un, une grande première pour un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Les deux hommes ont affiché leur entente pour tourner la page du passé. L'événement a suscité des réactions à la fois positives et prudentes dans le monde. Séoul salue un événement historique et Pékin le début d'une nouvelle histoire. Un premier pas important pour Tokyo et Moscou. Dans le reste de l'actualité, en Méditerranée, une solution en vue pour les 629 migrants à bord de l'Aquarius. Ce navire devrait rejoindre l'Espagne grâce à l'aide de deux bateaux italiens. Et puis en France, alors que débute une nouvelle grève des cheminots, le projet de réforme de la SNCF est sur le point d'être définitivement voté au Parlement. La poignée de main historique a donc eu lieu ce matin à Singapour. Poignée de main appuyée entre Donald Trump et Kim Jong-un, qui l'aurait cru il y a encore quelques mois lorsque les deux hommes s'est échangé menaces et invectives. On a donc assisté à une première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Les deux hommes se sont entretenus pendant près de 5 heures. D'abord lors d'un tête-à-tête, puis au cours d'une réunion de travail suivie d'un déjeuner. Sur le fond, un document commun a été signé sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais sans mention particulière au programme de la Corée du Nord. Sa formulation reste assez vague, y compris en termes de calendrier. Tout sourire, Donald Trump s'est toutefois montré très positif et encourageant pour la suite du processus, se disant prêt à inviter son homologue à la Maison Blanche. Il assure que le processus de dénucléarisation pourra désormais commencer très rapidement. Donald Trump est apparu un peu plus tard, cette fois seul en conférence de presse. Un extrait.
Il n'y a pas de limite à ce que la Corée du Nord peut réaliser si elle abandonne ses armes nucléaires, accepte les échanges commerciaux et respecte ses engagements avec le reste du monde qui veut vraiment s'impliquer avec elle. Le président Kim a devant lui une opportunité sans précédent, entrée dans les mémoires comme celui qui a inauguré une nouvelle ère glorieuse de sécurité et de prospérité pour son peuple. Le président Kim et moi venons de signer une déclaration commune dans laquelle il réaffirme sa volonté inébranlable de mener à bien la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous avons aussi convenu de mener des négociations vigoureuses pour mettre en œuvre l'accord aussi vite que possible, et ils veulent faire. Ce n'est plus le passé, ce n'est plus une autre administration qui n'a jamais réussi à l'initier et donc n'a jamais réussi à le faire. Le président Kim m'a dit que la Corée du Nord est déjà en train de détruire un site majeur de test de moteurs de missiles. Ce n'est pas dans le document signé, nous nous sommes mis d'accord là-dessus après la signature du document. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes au début d'un processus difficile. Nos yeux sont grands ouverts, mais la paix vaut toujours de faire des efforts.
Extrait de la conférence de presse de Donald Trump tout à l'heure à Singapour. Parmi les réactions, le président sud-coréen Moon Jae-in a salué l'accord de Singapour comme un événement historique ayant mis fin à la guerre froide. Quant à la Chine, principal allié de la Corée du Nord, Pékin salue le début d'une nouvelle histoire, mais appelle de nouveau à une dénucléarisation totale de son voisin. La Chine propose par ailleurs un allègement des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Au Japon, le premier ministre Shinzo Abe salue un premier pas. Moscou considère la rencontre Trump-Kim comme un événement positif. Enfin, pour Paris, le document signé à Singapour est un pas significatif, même si tout n'a pu être réglé en quelques heures.